Imaginez juste une seconde le lancement d'une start-up, mais alors absolument révolutionnaire. Son produit a un succès fou. Enfin, la croissance est exponentielle, les chiffres explosent de partout.
Ouais, le rêve de tout entrepreneur, quoi.
Exactement. Mais voilà le truc. Cette jeune organisation fait face à un organisme de réglementation impitoyable qui est terrifié à l'idée de perdre son monopole et qui est littéralement prêt à utiliser la violence physique pour l'écraser.
Ah oui, là ça se corse sérieusement.
Et c'est pas fini. Comme si la menace externe suffisait pas, en interne la direction est sur le point de subir une crise des ressources humaines catastrophique. Le genre de truc qui menace de faire imploser toute la structure.
Sauf que là on ne parle pas du tout de la Silicon Valley, n'est-ce pas ?
Absolument pas. On parle de la Jérusalem du 1er siècle. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis prêt à décortiquer tout ça avec nos sources d'aujourd'hui, notamment les notes historiques du docteur Craig Keener.
Et je suis ravie d'être là aussi. Parce que l'enjeu ici, c'est pas du tout la faillite financière, hein. C'est littéralement la survie physique. L'histoire du mouvement apostolique à ses tout débuts, c'est vraiment l'étude d'une résilience fascinante.
C'est clair.
C'est l'observation clinique de la façon dont un groupe naissant arrive à naviguer entre deux forces complètement destructrices. D'un côté, l'écrasement politique par les autorités, et de l'autre, les fractures culturelles qui rongent l'organisation de l'intérieur.
Ulysse, une croyance glaçante avec des cadavres souterrains?
Ah oui, les fameux cadavres qui roulent, on va y venir, c'est incroyable.
Ouais, on garde ça pour tout à l'heure. Et on a aussi des leçons de leadership d'une modernité, déconcertante. Mais l'ironie, c'est qu'avant même d'affronter le rouleau compresseur des autorités, ce mouvement frôle l'anéantissement à cause d'un simple scandale interne.
Tout à fait. C'est la fameuse affaire d'Ananias et Saphirée.
Voilà. Ce couple qui ment sur le montant d'une donation financière à la communauté et qui tombe raide mort, foudroyé sur place. Franchement, lu de l'extérieur, ça ressemble à des méthodes de secte pour terroriser les membres qui cachent de l'argent. C'est incroyablement dur pour un simple mensonge comptable, non ?
C'est vrai que ça paraît extrême aujourd'hui, mais il faut vraiment replacer cet événement dans la brutalité socio-économique de l'Antiquité. À l'époque, il n'y a pas d'État-providence. Zéro.
Ouais, pas de sécurité sociale, quoi.
Exactement. Les premières communautés chrétiennes ne sont pas juste des rassemblements spirituels le dimanche. Elles fonctionnent littéralement comme des mutuelles de survie ou même des associations d'assurance funéraire.
Des assurances funéraires, ouais.
Ouais, le principe était simple. On payait pas une fortune d'un coup. On cotisait régulièrement. Et en échange, on avait la garantie d'être pris en charge le moment venu et surtout d'avoir un enterrement digne.
D'accord.
Dans une société où mourir dans l'indigence absolue est la pire des hontes, ce filet de sécurité, il est vital. Donc ce mensonge, c'est pas juste une petite fraude fiscale isolée.
Ah, je vois.
C'est une trahison monumentale de l'écosystème, en fait.
Exactement.
Si quelqu'un commence à falsifier sa contribution tout en s'attendant à bénéficier du filet de sécurité complet, c'est toute la structure de confiance qui s'effondre. Et si ça s'effondre, les plus vulnérables meurent littéralement de faim.
C'est faux.
Et d'ailleurs, le récit précise que, juste après le décès d'Ananias, des jeunes hommes enveloppent rapidement son corps. C'est pas par précipitation pour cacher un crime.
Ouais, c'est pas pour faire disparaître l'épreuve.
Non, c'est un acte profondément culturel. C'est pour protéger l'honneur du défunt. On couvre le visage immédiatement pour éviter que la communauté ne fixe les traits d'un homme frappé par la honte publique.
Je vois la mécanique sociale. C'est fascinant. Mais bon, la sanction divine reste quand même terrifiante. Si je peux proposer une analogie, c'est un peu comme si ces deux personnes avaient touché un câble à haute tension à main nue.
C'est une excellente image.
L'idée véhiculée par les textes de l'époque, c'est pas nécessairement que le divin est malveillant ou cruel. C'est plutôt que la sainteté pure possède une puissance mortelle pour ce qui est corrompu.
Tout à fait.
C'est le même principe que dans l'Ancien Testament, quand Uzza touche l'Arche d'Alliance par inadvertance pour pas qu'elle tombe, et qu'il en meurt sur le coup. La sainteté, c'est tout simplement pas compatible avec la corruption.
L'analogie du câble à haute tension illustre parfaitement la pensée théologique de l'époque. Mais il y a un autre aspect de cet événement qui passe souvent à la trappe, et qui est pour le 1er siècle fondamentalement subversif.
Ah bon, lequel ?
L'égalité inattendue des genres face à la responsabilité morale.
Ah oui, avec Saphira.
Ouais. Saphira. Elle arrive 3 heures après son mari. Elle ignore complètement qu'il est mort et elle est interrogée et tenue responsable exactement au même titre que lui.
Ce qui, pour le coup, se termine de façon assez tragique pour elle.
Sur le moment, oui, l'issue est facale. Mais d'un point de vue historique et sociologique, c'est une preuve révolutionnaire. Ça montre que ce mouvement naissant considère les femmes comme des agents moraux totalement autonomes.
Ouais, elle n'est pas juste la femme d'eux.
Exactement. Dieu tient Saphira pour co-responsable. Et ça contraste violemment avec les normes des sociétés antiques, comme l'Athènes classique, par exemple.
Où les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, c'est ça?
C'est ça. Elles n'avaient quasiment aucune place dans l'espace public, ni de véritable responsabilité morale individuelle reconnue par les tribunaux. Ici, l'intégrité est exigée de tous, sans aucune distinction de genre.
Et le résultat de cette intransigeance en interne, c'est que la communauté devient moralement intouchable. Et l'ironie, c'est que cette réputation terrifiante ne fait pas du tout fuir les foules, bien au contraire.
Ah ça non, ça les attire.
Ça rend les apôtres incroyablement populaires. Ce qui nous amène à la réaction en chaîne. Cette popularité délirante, elle déclenche la fureur des autorités externes, les Sadducéens. C'est un véritable jeu de pouvoir à l'échelle de Jérusalem.
Et le moteur de cette arrestation, nos sources le montrent très clairement, c'est la jalousie pure et simple. Dans les sociétés méditerranéennes de l'Antiquité, l'honneur n'est pas un concept abstrait.
C'est perçu comment alors ?
C'est perçu comme une ressource physique, en quantité limitée. C'est vraiment un jeu à somme nulle. Si un groupe d'anciens pêcheurs galiléens gagne en popularité, c'est mathématiquement au détriment du prestige des autorités en place.
Ah oui, c'est soit eux, soit nous, quoi.
Exactement. Les Sadducéens, c'était l'élite aristocratique du temple. Ils avaient le pouvoir institutionnel, la richesse, mais ils n'étaient pas particulièrement aimés du peuple. Donc voir un mouvement marginal capter l'attention du public comme ça, c'était une menace politique existentielle.
Et le niveau de vénération est tel que c'est fou. Les gens sortent les malades dans les rues en espérant que la simple ombre de Pierre passe sur eux. Franchement, l'idée d'une ombre guérisseuse, ça résonne vraiment comme une superstition païenne.
Ouais, la notion que l'ombre d'une personne sainte puisse transmettre sa vertu, c'était effectivement très présent dans les croyances magiques païennes, et ça commençait à imprégner la culture populaire juive de l'époque.
C'est assez étonnant de voir ça dans ce texte.
Ce qui est fascinant sur le plan théologique, c'est que le divin semble s'adapter à cette théologie populaire un peu bancale.
Une fée avec ce qu'ils ont, quoi.
Voilà. Ils rencontrent les gens là où ils sont, au niveau de leur propre compréhension, même si elle est imparfaite, pour opérer des guérisons.
Mais face à des foules prêtes à vénérer des ombres, l'élite panique complètement et jette les apôtres en prison. Et quand on parle de prison antique, on est d'accord qu'on ne parle pas de cellules individuelles avec un lit et 3 repas par jour.
Ah, loin de là. Les prisons de cette époque, elles servaient exclusivement de détention provisoire en attendant le procès. C'était des fosses ou des pièces surpeuplées, plongées dans le noir total, sans aucune installation sanitaire.
L'horreur absolue, quoi.
Les prisonniers devaient faire leurs besoins à même le sol, l'air était irrespirable, l'objectif c'était pas la réhabilitation, c'était la destruction psychologique pure et dure.
Briser les gens avant le tribunal ?
C'est ça, on voulait humilier l'accusé pour qu'il arrive complètement terrorisé devant ses juges le lendemain.
Donc le plan des Sadducéens, c'était de les laisser macérer dans la peur. Sauf que pendant la nuit, les portes s'ouvrent mystérieusement et les apôtres s'évadent. Et je parie que ce détail précis, cette libération divine, ça devait faire jubiler les auditeurs de l'époque, non ?
Oh que oui. C'est un motif qui résonnait puissamment avec d'autres grands récits de leur culture. Les populations hellénisées de l'Antiquité maîtrisaient parfaitement ces codes littéraires.
Tu as un exemple en tête ?
Le parallèle le plus frappant, on le trouve dans la célèbre pièce grecque « Les Bacchantes d'Eurépide ». L'intrigue met en scène le roi Penthé, qui représente l'ordre établi, et qui emprisonne les disciples du dieu Dionysos.
Parce qu'il perçoit ce culte comme une menace, j'imagine.
Exactement. Mais le divin se moque complètement des chaînes humaines. Les liens tombent d'eux-mêmes, les portes s'ouvrent toutes seules. Et Penthé, pour s'être opposé au divin, finit littéralement déchiqueté.
Ah ouais, fin tragique.
La littérature juive ancienne utilisait aussi ce motif, notamment dans les récits de Moïse affrontant le pharaon. Le message encodé dans ces évasions, il est universel. Les démonstrations de force des autorités humaines sont juste pathétiques quand elles tentent d'enfermer le divin.
L'évasion est spectaculaire, certes, mais franchement, la réaction des apôtres derrière est encore plus incompréhensible.
C'est-à-dire ?
Ils s'échappent en pleine nuit. La logique voudrait qu'ils fuient la ville en courant, qu'ils aillent se cacher dans les collines. Mais pas du tout.
Ah non, ils retournent au front.
Dès l'aube, à la première heure d'ouverture du temple, ils retournent se placer exactement là où ils avaient été arrêtés la veille et ils recommencent à prêcher.
C'est d'une audace absolue.
C'est suicidaire, presque.
C'est comme si des lanceurs d'alerte libérés sous caution au beau milieu de la nuit décidaient de retourner à la première heure avec des mégaphones directement dans le hall du siège social de l'entreprise qui les poursuit en justice.
C'est une belle image, et c'est exactement ça.
C'est de la défiance pure. Il signifie au tribunal qu'ils ne reconnaissent tout simplement pas sa juridiction.
Et évidemment, cette défiance enrage le Sanhédrin, le Conseil suprême. Les apôtres sont ramenés de force. Et là, leur ligne de défense tient en une phrase vertigineuse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Ce qui est énorme à dire devant les dirigeants politiques.
C'est un écho presque mot pour mot à la défense de Socrate face à ses juges athéniens des siècles plus tôt, juste avant son exécution. Et les faits ils-mêmes. Les autorités veulent un bain de sang. Les Sadducéens sont prêts à prononcer la peine de mort immédiate.
Mais le massacre est évité de justesse grâce à l'intervention d'un seul homme, Gamaliel.
Le fameux Gamaliel.
Le modéré, pragmatique, une voix discordante au sein même de ce tribunal en colère. C'était qui exactement ce Gamaliel ?
C'est une figure historique massive. C'est un pharisien, élève du légendaire enseignant Hillel. Et, fait crucial, c'est lui qui a été l'éducateur d'un jeune homme nommé Saul de Tarse.
Celui qui deviendra l'apôtre Paul plus tard.
Exactement. Et c'est très probablement grâce à cette connexion que l'auteur des actes a eu accès aux délibérations secrètes de ce procès, qui se tenait à huis clos.
Ah, il avait une source de l'intérieur.
Voilà. Et il faut savoir que les pharisiens étaient minoritaires face aux sadducéens dans le Sanhédrin. Mais ils possédaient une arme redoutable, le soutien du peuple.
Donc les sadducéens ne pouvaient pas juste l'ignorer.
Non, ils devaient faire avec. Ignorer un leader pharisien respecté comme Gamaliel, c'était risquer de déclencher une émeute.
Et donc Gamaliel se lève et il utilise l'histoire politique récente pour calmer tout le monde. Il rappelle le souvenir de chefs rebelles comme Théudas ou un certain Judas le Galiléen, dont les mouvements se sont complètement effondrés après leur mort.
Ouais, il fait appel à leur bon sens.
D'ailleurs, petit détail historique fascinant, derrière cette révolte de Judas le Galiléen mentionnée dans nos sources, ce soulèvement avait conduit les armées romaines à raser complètement la ville de Séphoris, en Galilée.
Une destruction totale, oui.
Et la reconstruction de cette immense cité a nécessité une main-d'œuvre gigantesque, ce qui a créé une demande massive pour des artisans et des charpentiers. Or, Séphoris se trouvait à peine à 6 km de Nazareth, exactement à l'époque où Jésus y grandissait.
C'est dingue, non ? Les événements géopolitiques majeurs façonnent l'économie locale d'une manière incroyablement concrète. Les fils de l'histoire sont tissés hyper serrés.
C'est clair. Et donc, le discours de Gamaliel repose sur une logique implacable, l'attentisme. Il leur dit en gros, ne faites rien.
Exactement. Il conseille à l'Assemblée de patienter. Si ce mouvement n'est qu'une ambition humaine, il s'effondre de lui-même. Pas besoin de se salir les mains. Mais si, par hasard, l'origine de ce mouvement est divine, alors là, les autorités courent le risque terrifiant de se retrouver, je cite, théomakos.
Le terme précis qui signifie combattre contre Dieu. Le même concept mortel qu'on a vu dans la pièce de Ripide tout à l'heure.
Tout à fait. Donc le Sanhédrin, coincé entre sa soif de vengeance et la nécessité de ne pas s'aliéner le peuple, opte pour un compromis. Brutal, mais un compromis.
Il les relâche ?
Oui, il relâche les apôtres, mais pas avant de leur infliger la punition légale pour insoumission, les fameux 39 coups de fouet.
Ce qui est extrêmement douloureux, bien que réglementé pour ne pas être mortel, contrairement au supplice romain qui, lui, n'avait aucune limite et déchiquetait les chairs.
Oui, les Romains, c'était une autre catégorie d'horreur.
Mais ce qui défie la compréhension moderne, vraiment, c'est la façon dont les apôtres sortent de ce tribunal. Le dos en sang, ils repartent, en se réjouissant. Je veux dire, comment c'est humainement possible d'être fouetté publiquement et de ressentir de la joie ?
C'est très dur à imaginer pour nous.
Dans nos sources, le docteur Kiner partage une anecdote personnelle très troublante. Des individus contemporains battus avec une violence inouïe pour leurs convictions. Il raconte avoir eu la tête frappée contre le sol, les cheveux arrachés par poignées, et pourtant, au cœur de l'agression, n'avoir ressenti aucune douleur physique.
L'adrénaline, sans doute.
Que l'on attribue ça à une décharge massive d'adrénaline qui anesthésie le corps, ou à une grâce spirituelle transcendante, le phénomène de résilience face au martyr est vraiment documenté.
Et cette joie, elle s'enracine aussi dans une immense victoire théologique intime pour eux. Dans la littérature juive ancienne, souffrir pour le nom, c'était l'honneur ultime, un privilège réservé exclusivement à ceux qui enduraient l'oppression pour l'honneur de Dieu.
Ah, donc pour eux, c'est une validation.
Exactement. En déclarant qu'ils sont fiers de souffrir pour le nom de Jésus, ces hommes affirment sans la moindre ambiguïté qu'ils le placent au même rang divin. et malgré les coups, il retourne enseigner. La violence de l'État a totalement échoué.
L'ironie de l'histoire, c'est que la persécution externe les a rendus plus forts. Mais comme dans toute start-up qui connaît une hypercroissance, le vrai danger vient de l'intérieur. La logistique quotidienne va soudainement menacer de faire imploser tout ce qu'ils ont construit.
Ah oui, là les rouages de l'administration commencent vraiment à craquer. Le récit mentionne une plainte très grave pour discrimination.
Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Lors de la distribution quotidienne de nourriture, les veuves hellénistes, c'est-à-dire les veuves juives originaires de la diaspora qui parlent grec, affirment être négligées au profit des veuves locales de Judée.
Et à l'époque, c'est pas juste un petit manque à gagner ?
Non ! Une veuve sans famille élargie n'avait aucune source de revenus. La distribution de la communauté, c'était la différence entre la vie et la mort par inanition.
Mais une question de fond se pose ici. Pourquoi y avait-il une telle concentration de veuves étrangères, ces fameuses hellénistes à Jérusalem ? Pourquoi elles avaient quitté leur pays pour se retrouver vulnérables ici ?
La réponse implique une imagerie historique, assez macabre, il faut le dire.
Ah ouais ?
Raconte. Tout repose sur une théologie funéraire très spécifique de l'époque. L'immense majorité des Juifs vivaient en dehors de la Palestine, dans l'Empire romain. Or, une interprétation populaire du prophète Ézéchiel affirmait que le grand réveil des morts à la fin des temps n'aurait lieu que sur la terre d'Israël.
D'accord.
Et les croyances allaient même jusqu'à suggérer que si un individu était enterré à Rome ou à Alexandrie, son cadavre devrait se frayer un chemin souterrain, roulant douloureusement à travers les entrailles de la terre, jusqu'à atteindre Jérusalem pour ressusciter.
Waouh ! Une perspective terrifiante de randonnée souterraine post-mortem, quoi.
C'est ça. Pour éviter ce supplice, de nombreux couples âgés liquidaient leurs biens et migraient vers Jérusalem juste pour y mourir en paix.
D'accord, je comprends la mécanique démographique maintenant.
Les hommes étant statistiquement plus âgés, ils mouraient souvent les premiers. Donc ces migrations ont généré un nombre disproportionné de veuves étrangères à Jérusalem, totalement coupées de leurs réseaux familiaux.
La jeune église s'est retrouvée à devoir gérer cette crise de pauvreté. Mais face à cette minorité linguistique qui ose se plaindre de discrimination, la réaction instinctive d'une organisation antique serait été quoi ? La répression, non ?
Absolument. On maintient l'ordre en faisant taire ceux qui font des vagues.
C'est comme une entreprise moderne où des employés étrangers se plaignent d'injustice à la cantine gérée par la direction locale. Que font les apôtres ? Ils ne se contentent pas d'ouvrir une enquête interne en bois pour calmer les esprits.
Non. Ils adoptent une solution radicale.
Ils délèguent entièrement le pouvoir. Ils demandent à la communauté de choisir 7 administrateurs pour gérer ce budget vital.
C'est un acte de décentralisation massif. Mais le véritable choc culturel, il réside dans l'identité des 7 hommes choisis.
Leurs noms sont fous. Étienne, Philippe, Procor. Les 7 ont des noms exclusivement grecs.
Ouais. L'un d'eux, Nicolas, est même un ancien païen d'Antioche, converti.
C'est vertigineux. La direction confie les clés de l'intégralité du département financier et logistique, non pas à un comité mixte, mais exclusivement à des membres du groupe minoritaire qui venait juste de se plaindre.
C'est une démonstration de confiance inouïe.
Et l'impact de cette décision dépasse largement le problème de nourriture, n'est-ce pas ?
Ah oui, de très loin. Cette écoute active de la minorité a carrément transformé la trajectoire de l'histoire. Les apôtres galiléens connaissaient bien la culture locale, mais ils étaient mal équipés pour dialoguer avec l'immense monde gréco-romain extérieur.
Ce qui nous amène à une leçon intemporelle sur la gestion des structures humaines. Que l'on observe une communauté du 1er siècle ou une organisation moderne, prêter attention aux voies de la périphérie, c'est pas juste de la charité.
Non, c'est de la stratégie vitale.
Les individus marginalisés voient les angles morts systémiques que le groupe majoritaire, trop confortablement installé, est incapable de percevoir. Ils détiennent les clés de l'innovation.
La périphérie finit très souvent par sauver le centre de sa propre stagnation.
Ce qui nous laisse sur une réflexion finale assez provocatrice, tirée de nos sources d'aujourd'hui. Avant son départ, le fondateur du mouvement avait ordonné à ses disciples de propager leur message jusqu'aux extrémités de la terre.
Sévère.
Mais curieusement, les apôtres semblaient parfaitement satisfaits de rester ancrés dans la capitale. Ils attendaient juste que la ville entière se convertisse.
Ils étaient très à l'aise, finalement.
Leur succès fulgurant et leur confort entre locaux auraient très bien pu éteindre leur mission globale. Alors, serait-il possible que cette modeste plainte administrative, concernant des veuves, qui a propulsé les hellénistes au pouvoir et déclenché la violente persécution d'Étienne juste après, ait été la seule force capable d'arracher cette puissante organisation à sa zone de confort.
C'est une excellente question.
L'histoire a parfois besoin de fracturer une structure de l'intérieur pour l'obliger à sortir et à changer le monde. À méditer pour la prochaine fois.